I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai le temps de faire un petit pissou ou pas?
Oh là là, quel dommage qu'on l'ait pas enregistré.
Hein? Ça s'enregistre. Ah ok. Ça va être ça.
Ça c'est bon ça.
J'ai le temps de faire un petit pissou en introduction.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour cet épisode de numéro 4 de Fan Footage, le podcast, toujours depuis le numéro 21 à Levallois. Le concept ne change pas, vous le connaissez hein, maintenant, mais bon, on vous le rappelle si vous êtes des nouveaux auditeurs, puisque nous sommes autour d'un verre pour vous livrer nos impressions à chaud des films que l'on a la chance de voir ou non en avance. En l'occurrence, deux films en salle ce mercredi, Hostile avec Christian Bale et Un raccourci dans le temps avec Oprah Winfrey. Ça va être un peu deux salles, deux ambiances, mais vous allez voir, on va bien s'amuser. N'est-ce pas mon cher Pierre Delors, le Cheyenne de la tribu Fan Footage? Salut Pierre, ça va?
Bonsoir.
Bonsoir.
On va bien s'amuser.
Oui, ça s'entend, effectivement. Et nous accueillons notre médium heureux
et centré.
J'ai nommé Ilan Ferry de Cinévibe.fr. Salut Ilan.
Salut Thomas.
Vous êtes prêts mes amis?
Ouais, toujours.
Allez, c'est parti.
Bon, cette mission c'est quoi?
Crazy Heart, Les Brasiers de la Colère ou encore Black Mass, le jeune cinéaste Scott Cooper revient cette année avec un western intitulé Hostile réunissant Christian Bale, Rosamund Pike ou encore Wes Studi. Nous sommes en 1892 et nous suivons le capitaine Joseph Blocker qui est chargé d'escorter le chef de guerre Cheyenne Yellow Hawk et sa famille sur leur terre tribale, sauf que durant le voyage entre le Nouveau-Mexique et le Montana, ils vont non seulement devoir faire preuve de solidarité face aux Comanches hostiles qu'ils vont croiser, mais aussi venir en aide à Rosalie Quaid, veuve dont la famille a été assassiné sous ses yeux. Messieurs, juste avant de vous donner la parole et d'entrer dans les détails, je voudrais juste vous dire que moi, le film m'a scotché, il m'a vraiment écrasé par le caractère funeste qu'il dégage, et il y avait cette phrase prononcée par Rosamund Pike dans le trailer, vous verrez, qui dit à un moment donné « J'envie le caractère définitif de la mort ». Et je trouve que c'est une phrase qui, moi, déjà, m'avait hanté quand j'avais vu donc les bandes annonces et qui est prononcée d'une autre façon dans le film et qui ne m'a pas lâché pendant tout le film et même après. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire. Qui veut commencer? Ilan?
Bah, je vais commencer les hostilités, si je puis dire.
Je t'en prie, vas-y.
Hostile, c'est un film qui ne m'a pas surpris.
D'accord.
Mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans le cinéma de Scott Cooper,
oui.
À savoir cette peinture désenchantée de l'Amérique, vue à travers les personnages, les yeux de personnages qui sont en quête de rédemption.
Oui.
Quand je vois Christian Bale, je retrouve le Jeff Bridges de Crazy Heart, je retrouve l'autre Christian Bale des Brasiers de la Colère. C'est-à-dire ces personnages qui portent une tristesse en eux, qui portent même, on va dire, un poids, le poids du survivant.
Mm-hmm.
Parce que c'est ça, tout son cinéma parle de survivant dans des contextes différents. Et voilà, et donc moi, je n'ai pas été surpris de voir Cooper s'attaquer à un genre comme le western, surtout maintenant qu'on lui donne depuis Impitoyable des attraits très crépusculaires.
Crépusculaires, oui.
Voilà. Pour moi, c'était logique. Donc, pas surpris, mais en même temps totalement emporté par cette histoire. Mmh. Parce que j'ai été emporté par l'odyssée intérieure de ces personnages qui fait écho à la grandeur des paysages que l'on voit. Enfin, j'ai tout aimé dans le film, en fait. J'ai aimé son côté extrêmement posé, sa pudeur. C'est un film qui est très pudique quand on y pense, parce qu'il est anti-spectaculaire.
Ouais.
Il y a des choses très rudes qui nous sont montrées, mais de manière crue.
Mmh.
Et ça ne va jamais trop dans les détails, c'est jamais racoleur, c'est jamais trop lourd.
Non.
Tout est fluide. Tout est.
Il est sur le fil.
Exactement.
Il est sur le fil.
On est sur le fil. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce film, c'est que, en fait, les choses se font naturellement. L'histoire se déroule naturellement, le background des personnages se déroule aussi naturellement. On sent cette espèce de chape de plomb.
Ouais.
Ce qui. qui est sur tout le
c'est
tout
très
film,
très ouais. dur hein. Ouais. On c'est vraiment
de,
dur hein,
on parle de balade funeste, mais oui c'est une balade funeste, mais c'est une belle balade funeste, c'est beaucoup de paradoxes. Ça parle de choses très tristes, ouais. mais en même temps c'est beau.
Pierre,
ce qui m'a plutôt intéressé, c'est l'ouverture. En fait, le film s'ouvre par une citation, alors je suis vraiment désolé, je me souviens plus de qui, de quoi elle est tirée, mais qui avant que le film commence, on inscrit à l'écran quand chaque Américain la sauvagerie et la barbarie est toujours présente, et ce malgré l'apparente civilisation, et que l'Ouest sauvage est toujours là.
Mais la note d'attention elle est claire. Hein.
Et la note d'attention est claire, et c'est ça qui est très intéressant avec ce western, c'est que en fait c'est un western qui est vraiment un western de notre époque, des années 2010. C'est-à-dire que c'est quand même c'est un peu un des genres par excellence d'Hollywood, c'est un peu un des emblèmes du cinéma américain, le western, et c'est un genre qui a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on est passé d'une vision extrêmement romanesque et idéalisée et une glorification de l'esprit américain dans des westerns de certaines époques. Et puis bien sûr il y a l'héritage de John Ford, et puis arrivent des westerns plus sombres, et puis le western spaghetti, etc. Et on arrive aujourd'hui à ce film de Scott Cooper qui sort en 2018 et qui est en fait une espèce de réconciliation de l'Amérique avec son passé de l'époque, mais qui est un passé absolument brutal, terrible, sauvage. Et c'est un film qui parle, en fait, il faut quand même, voilà, tu l'as dit, un chef Cheyenne qui est joué par West Dee, formidable acteur. C'est un film qui traite des confédérés, enfin une fois la guerre terminé, puisque Christian Bale est un soldat.
Il est sur la fin,
c'est un soldat. Et il doit escorter des Indiens. Et donc, c'est pas un western simplement du désert avec des desperados et des Mexicains. C'est un western avec des Indiens. Et des Indiens qui sont en voie de disparition, qu'on met dans les réserves. Et là, il y a ce grand chef indien qui s'appelle Yellow Hawk. Donc, incarné par West Dee, qui est toujours fidèle à lui-même, beau, magnanime, charismatique, qui est mourant. Qui est atteint d'un cancer et qui va disparaître. Et c'est la disparition de ce grand chef indien qui est un peu l'un des symboles de la résistance Cheyenne. Et il doit l'escorter sur son lieu de mort. C'est un peu un pèlerinage. Et le personnage de Christian Bale, lui, c'est là où je disais que Scott Cooper réconcilie un peu voilà, cette conscience de l'Amérique avec son passé. C'est que Christian Bale, c'est pas simplement un beau cow-boy. Christian Bale, c'est aussi une ordure.
C'est une vraie
ordure.
C'est aussi
un homme brisé par la guerre, traumatisé, qui a vécu des horreurs et qui a vu des horreurs et qui en a commis tout autant. Et on lui répète d'ailleurs de manière, bon, je trouve pas toujours tellement fine à travers le film, que mais tu ne vaux pas mieux que ton ennemi. Et qu'en fait, il y a eu du sang sur les mains des deux côtés. Et alors, en ça, j'ai trouvé le film très intéressant, tu vois.
Moi, je le vois vraiment à partir de là, les caractères spécifiques de chacun des personnages, le périple. C'est là où je trouve très intéressant Scott Cooper, c'est que ça s'apparente, tu le disais, il y a eu plusieurs genres de western, mais là, on est vraiment dans la grande tragédie humaine, complexe. Et pour moi, c'est totalement raccord avec ce qu'il a pu faire auparavant. Avec ces personnages comme ça très très ambivalents, avec des contrariétés et des voilà. C'est pas un film qui est super super simple, vraiment. Faut quand même le préciser. C'est quand même très dur, c'est très éprouvant. Et moi c'est un film qui m'a saisi de bout en bout. Je parlais du caractère funeste et
C'est le mot. Hein. Je veux dire, faut pas aller voir ce film pour surmonter le moral. Hein. C'est particulièrement sombre. Ouais. Mais tu vois, il y a cette parce que oui. En fait, ils présentent par exemple les natifs américains. Faut pas les appeler les Indiens. Les natifs américains. Alors il y a Yellow Hawk qui est quand même dans cette espèce de dignité du chef natif américain. Puis il y a ces espèces de tribus comanches complètement sauvages qui sont limite déconnectées de tout héritage et qui attaquent peu importe blanc, noir, amérindien, rien à foutre. Ils pillent et ils violent. Et d'ailleurs le sort de la famille de Rosamund Pike est absolument effroyable.
Ah ouais.
Après, derrière, parce que les comédiens sont tous particulièrement impressionnants et quand même Rosamund Pike, c'est une sacrée performance.
Elle est déchirante.
Elle est bluffante. Christian Bale est très très bien.
Ouais, il est époustouflant de gravité, moi je trouve Christian Bale. Et pourtant, je suis pas un grand fan, mais là. Pff.
Ouais, moi pareil, exactement. La mise en scène est sobre, les paysages sont beaux, la musique fait son effet. Après, voilà, je sais qu'on en avait discuté un petit peu avec Ilan, on voulait pas trop se spoiler avant le podcast, mais moi je trouve qu'il y a quand même un côté formule. dans ce film. Certes, le film n'essaie pas de te surprendre, parce qu'en fait, c'est une ligne droite, le film. Mmh. Les personnages partent d'un point A à un point B, et ils ont des embûches sur la route, et arriveront-ils à destination sains et saufs, mystère. Et
ils s'installent dans cette espèce de mécanique où la mort frappe.
Mais en fait, la mécanique est tellement présente qu'il y a un moment, j'ai beaucoup aimé le film, mais il y a un moment, moi, j'ai trouvé ça justement tellement mécanique, et c'est le mot, tellement formulaïque, là, que j'étais capable de deviner au bout de 10 minutes de film tout ce qui allait se produire. Je savais grosso modo quel serait le parcours des personnages, qui allait mourir, qui allait survivre, qui allait avoir une histoire d'amour. Et il y a des moments même, je regardais les événements se dérouler, je me disais ça, ce qui est en train de se passer me paraît pas avoir une grande importance. À tous les coups, allez, dans 3 minutes, on va se taper le truc qui va survenir soudainement, l'ennemi qui arrive surgit de nulle part. Il y a un moment, j'étais presque dans une attente et de me dire,
c'est qui le prochain sur la liste.
C'est qui le prochain sur la liste. Et crac, ça arrivait sans que je sois surpris, tu vois.
J'entends ce que tu dis. Mais justement, c'est ça, l'une des grandes forces du film, c'est que il te parle aussi du côté systémique de la mort.
Oui, bien sûr.
Il y a quelque chose de très mécanique là-dedans, dans le fait que justement, on ne sait pas s'ils vont tous mourir ou pas, mais on sait à peu près qui va y passer, qui ne va pas y passer. Ouais. Et moi, ça m'a pas choqué. Parce que je trouve ça cohérent. En fait.
Et puis je le vois vraiment comme une sorte de voyage au bout de l'enfer, tu vois. Ouais, tu sais que ça va être de pire en pire, et c'est de pire en pire. Mais c'est une formule effectivement qui peut paraître qui toi t'as lassé.
Lassé, c'est un grand mot. J'ai quand même apprécié le film, mais je regrette un petit peu ce côté mécanique.
Mais alors, moi, la mécanique, je la vois, effectivement, je la ressens. Mais au bout d'un moment, moi, j'avais envie que le film se termine. Vraiment. Mais vraiment, parce que c'était, j'étais vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'étais écrasé par tout ce qui se passe, en fait. Par tout ce qui se, toutes les 5 minutes où t'en as un qui part, etc. Et dans des circonstances assez violentes à chaque fois. Et tu dis, putain, mais faut que ça s'arrête, quoi, c'est bon.
Ouais, mais... Pardon, je crois que je t'ai coupé.
Mais je remets pas en cause de la mécanique en tant que telle.
Bien sûr, mais il y a un côté pour moi.
Les épreuves en fait auxquelles les personnages sont
confrontés
en fait. C'est ça qui me disait allez stop.
Il y a un moment, tu sens qu'il veut appuyer cet aspect, qu'il veut appuyer son discours. Et il y a un personnage qui, moi par exemple, c'est le passage du film où j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer. Encore une fois, c'est un grand mot. Je le rappelle, je trouvais que c'était un très bon film, mais il y a un personnage qui est joué par Ben Foster, qui se ramène à un moment dans le film. Ils ont un petit échange avec lui. Le personnage pourrait être là ou pourrait ne pas être là. Je trouve que fondamentalement, ça ne change pas grand-chose.
Ça amène un petit background par rapport au personnage.
Ouais, c'est un personnage surgi de passé de Christian Bale. Ok, c'est genre son double en fait. Et si Christian Bale avait mal tourné, qu'est-ce qu'il serait devenu? Il serait devenu Ben Foster. Sauf que le truc, c'est qu'on pour bien te faire comprendre au bulldozer que l'Ouest c'était pas si blanc et noir, que nous aussi on a été mauvais, blablabla. Ben Foster lui répète, je crois que franchement limite il faudrait lire le scénario, et toutes les deux répliques il retient le même discours. Ah mais toi aussi tu ne vaux pas mieux qu'eux, toi aussi tu as du sang sur les mains. Et à un moment, au bout de la cinquième fois, j'étais là genre mais merci, c'est bon, on a compris, passons à autre chose, quoi. Et franchement je trouve que le film souffre un peu de ça, du côté mécanique et du côté de temps en temps trop appuyé pour souligner le propos, quoi.
Mais je sais ce que tu veux dire, juste une dernière chose. Je pense que justement cette mécanique est répétitive de manière volontaire, parce que tu parles de passer à autre chose, mais en fait personne ne peut passer à autre chose. Aucun des personnages ne peut passer à autre chose.
C'est
un cercle infernal dans lequel cette ritournelle totalement infernale sur laquelle ils sont pris, que le film met en valeur, si je puis dire, en tout cas sur lequel il accentue.
Tu parlais tout à l'heure des personnages, là je m'attarde vraiment sur le côté technique parce qu'on va ensuite passer donc à un autre film. Je voudrais juste signaler que la photo est signée Masanabu Takayanagi.
Et qui fait une très belle photo.
Très très belle photo, qui est donc fidèle parmi les fidèles de Scott Cooper, qui signait donc déjà aussi tous ses précédents films, et qui signait également la photo de Spotlight et le territoire des loups. Donc effectivement, on voyage vraiment dans les plaines du Nouveau-Mexique et du Colorado avec ces déserts arides, les canyons, les montagnes rocheuses, etc. Enfin, c'est sublime.
C'est... C'est sublime et c'est intéressant de voir que ce western sort en 2018 et que c'est pas, on nous fait pas rêver avec le Grand Ouest. On nous explique limite les problématiques de l'Amérique contemporaine à mais travers son passé.
C'est des thématiques justement qui sont chères à Scott Cooper parce qu'il s'attaque toujours au mythe américain avec ses figures représentatives.
Oui, exactement.
La violence.
La violence.
Parmi tous ces films, il y a la violence.
Ah oui.
À part peut-être Crazy Heart. J'ai des vagues souvenirs du film de Crazy Heart, mais je suis pas sûr
on
que.
On peut parler aussi de violence. De violence intérieure chez le personnage de
désespéré
de Jeff Bridges, oui, dans son désespoir, une espèce de violence,
des démons,
oui,
des démons intérieurs, oui,
et au-delà de ça, c'est quand même malgré tout, je trouve, un film. Bon, je sais qu'il faut pas sans cesse avoir une espèce de discours de replacer le film dans son contexte politique, etc., blablabla, mais c'est quand même un film qui parle de réconciliation.
Alors oui, je me souviens, tu m'avais dit ça à la sortie, oui, de la séance, et
malgré le côté funeste et malgré le parcours des personnages qui s'en vont vers la mort, c'est quand même un film sur la réconciliation, mais pas la réconciliation, mais la réconciliation, si tu veux, avec soi-même.
Ouais, bien sûr.
Être conscient de ce qui s'est réellement passé pour pouvoir aller de l'avant.
Et comment l'Amérique s'est construite sur la violence.
Et là, on a justement la fondation de l'Amérique, ouais, avec ses deux ennemis traditionnels du cinéma, c'est-à-dire les cow-boys et les Indiens. Et traités avec un pied d'égalité et qui, à un moment, doivent se réconcilier avec ce qu'ils ont fait. L'un est en train de mourir et l'autre se laisse limite dépérir, quoi. Et sur cette thématique et par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui aux États-Unis, je trouve que c'est extrêmement intéressant là-dessus.
Hostile, c'est en ça. Est-ce que vous avez une petite recommandation? Une petite recommandation d'un western? Je sais qu'on a beaucoup parlé dernièrement de la série Godless sur Netflix. Je sais que Pierre, t'es un peu.
Ouais, je vais pas faire genre. J'ai vu que le premier épisode et pour l'instant, j'étais pas ultra fan.
Moi, j'ai été saisi. Est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez éventuellement recommander?
Alors, moi, peut-être sur la même thématique, je conseillerais un western qui est sorti il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle Brimstone.
Brimstone avec
avec Kyle Van Houten,
ouais,
notamment, et Dakota Fanning,
mm-hmm,
et qui est un western qui a été réalisé par un Européen, un Néerlandais.
D'accord.
Et qui est très intéressant parce qu'il parle de, en gros, il raconte que l'histoire de l'Amérique à travers l'immigration s'est construite sur le sang,
ouais,
sur la violence. Il y a cette même idée que la violence traverse toute l'histoire d'un pays.
Ouais.
Et ça, je trouve ça très intéressant, assez raccord avec Austin, même si Austin, on peut plus parler d'odyssée intérieure que politique. Mm-hmm. Mais je trouve que Brimstone est un western extrêmement intéressant pour ce qu'il raconte.
Ok.
Pierre. Oh bah moi, je crois que à force, les gens ont compris, pardon. Désolé, je bois une bière, des fois je... Les gens ont compris que je peux pas m'empêcher de, quand on me demande une reco, d'en faire quatre à la fois.
Alors, donc, une seule.
Il y a Oprah Winfrey. Ouais,
on va rappeler que The Hateful Eight de Quentin Tarantino est probablement le dernier grand western. C'était absolument formidable.
La projection 70 mm, on s'en souvient.
Hein. Je veux juste te dire aussi que le western est un genre majoritairement américain, mais qu'il y a des variantes. Et il y a un excellent western australien, parce que l'Australie aussi, mm-hmm, a son bush et son désert et ses duels de pistolets. Et il y avait un excellent film de John Hillcoat qui s'appelait The Proposition, qui date de 2005. Mais si vous voulez vraiment vous intéresser au genre western et le voir d'une manière différente et pas aller dans les grands poncifs, on va pas citer Sergio Leone, etc. Il y a un western que j'aime beaucoup, qui est un western de Sam Raimi, qui s'appelle The Quick and the Dead. Mort ou vif en français, avec Sharon Stone et
DiCaprio
et Russell Crowe,
Jen Hackman.
Et en fait, c'est Sam Raimi, avec toute l'inventivité qu'on lui connaît dans la mise en scène, qui se dit, allez, je m'attaque au western, je m'attaque au mythe du duel, mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter une mise en scène nouvelle, rafraîchissante, reprendre certes des poncifs.
Comment dynamiter le genre.
Mais comment dynamiter le genre et amener quelque chose de nouveau. Et The Quick and the Dead, c'est de la tuerie, c'est le cas de le dire.
C'est super. Hostile, donc, c'est écrit et réalisé par Scott Cooper. C'est actuellement au cinéma. Le film a coûté 40 millions de dollars, je tenais à le préciser quand même. Voilà.
On va y revenir là-dessus.
Parce qu'en termes de budget, on va passer à quelque chose de complètement différent, puisque nous allons parler de A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps, la nouvelle pépite de Disney avec Oprah Winfrey. À tout de suite. On change d'ambiance, nous partons du côté du monde merveilleux de Disney avec A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps, la nouvelle super production fantastico-fantastique mettant en scène Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Zach Galifianakis et ce bon Chris Pine.
Chris Pine, ça me fait penser à Chris Pine Glover. Chris Pine, allez.
Pour pitcher le film, nous l'avons vu hier soir, on va essayer de faire court parce que c'est assez complexe malgré tout, mais l'histoire est assez simple, vous verrez. Nous suivons donc Meg, une jeune fille mal dans dans sa peau, qui part à la recherche de son père, incarné donc par Chris Pine, disparu
suite à une expérience qui a mal tourné. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé.
Voilà, parce que c'est un scientifique émérite.
Exactement.
Voilà.
Ouais.
Il aurait trouvé une espèce de faille spatio-temporelle pour voyager.
Voilà.
Pourquoi, je ne sais pas.
Et donc, elle est escortée par des êtres extra-dimensionnels qui sont donc incarnés par trois comédiennes.
Et Reese Witherspoon et Mindy Kaling.
Exactement. Et qui l'emmène, elle, donc Meg et son petit frère qui s'appelle Charles Wallace.
Charles Wallace.
Et qui, prénom composé, et qui sont donc emmenés dans ce voyage à travers les dimensions, à travers les planètes. Alors, Richard et son père, c'est ça.
Après, il n'y a pas beaucoup de planètes. Hein. J'en ai compté 2-3, mais bon.
Oui, c'est vrai. Ils sont tout radins.
Puis, ils affrontent une espèce de masse noire, le mal, le ça, qui est censé incarner les peurs.
Voilà, qui est enfin matérialisé, en fait. On arrive maintenant à matérialiser.
On va revenir dessus. Ne spoilons pas trop vite.
Alors, du coup, c'est réalisé par Ava DuVernay, et c'est important de le préciser. C'est important de le préciser parce que c'est un projet qui remonte à début 2010-2011, je crois. Il y avait déjà une première tentative d'adaptation par Disney. Le film devait coûter 35 millions de dollars à peu près. Ava DuVernay est arrivée sur le projet en juillet 2016, il me semble. Et là, boum, le budget passait à 100 millions de dollars.
100 millions de dollars. Il faut savoir qu'en plus, alors A Wrinkle in Time, en français, un raccourci dans le temps, chez nous, dans notre territoire hexagonal, c'est pas tellement connu, mais en fait aux États-Unis c'est vraiment un roman absolument culte, hein. C'est même cultissime. C'est un petit peu comme le disait la présentatrice de chez Warner qui nous faisait, de chez Disney pardon, qui nous faisait qui nous disait que c'était un peu le Harry Potter de sa génération, puisque c'est un film qui est sorti en 1962, qui est écrit par Madeleine Langle,
ouais.
Et en fait chez nous Langle c'est pas vraiment connu, mais donc c'est cette histoire classique du jeune héros, de la jeune héroïne qui se retrouve attirée dans une expérience et une aventure absolument exceptionnelle, qui est plus ou moins l'élu, qui part dans un nouveau monde et qui apprend à se redécouvrir elle-même ou lui-même à travers ce voyage qui est à la fois interne et externe, et qui va donc pour le coup de A Wrinkle in Time chercher son père disparu, et la disparition de son père a d'ailleurs complètement bouleversé sa vie de collégienne.
Ouais,
collégienne, il me semble, hein. Mm-hmm. Elle était bonne élève, elle devient absolument mal dans sa peau, mauvaise élève, elle a des rapports un peu conflictuels avec sa mère.
Elle faisait des équations en trois inconnus, il n'y en a plus que deux.
On va pas retenir nos coups, hein,
non,
sincèrement.
Non.
Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, c'est vraiment, comment dire, c'est une catastrophe industrielle, sincèrement.
Ouais, à 100 millions de dollars.
Les gens, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, je pense que les gens qui ont applaudi hier à la fin de la séance applaudissaient de soulagement.
Bah oui, alors la séance, il va falloir en parler, cette séance. Parce que, non mais le truc, c'est que. Les bandes-annonces ne m'avaient pas du tout emballé. Hein. Je pense qu'autour de la table, on était tous plus ou moins d'accord.
Ouais.
On trouvait que visuellement, ça n'avait pas l'air génial. Ava DuVernay, personnellement, elle a fait. Donc c'est son quatrième long métrage. Moi, j'en ai vu que un. Donc c'était son plus connu, Selma, qui revenait sur la fameuse marche donc de Selma à la ville de Montgomery, donc c'est le destin de Martin Luther King pendant cet épisode particulier, il me semble que c'est 1965, hein, l'événement historique. Selma, j'avais trouvé que c'était un film alors qui a été porté au pinacle, nommé aux Oscars, etc. Soi-disant c'était absolument exceptionnel, c'était à l'époque des Oscars So White, il me semble, ou juste avant.
C'était il y a 2 ans donc.
Le problème de Selma, c'est que c'était un film qui avait une thématique absolument fascinante, un acteur, David Oyelowo, qui était brillant, alors lui pour le coup, c'était un scandale qu'il ait pas sa nomination, il était merveilleux. Mais le film, je l'avais trouvé d'un point de vue réalisation d'une banalité, mais alors c'est confondante. Elle avait fait 2 autres films, hein, I Will Follow et Middle of Nowhere. En fait, c'est une réalisatrice qui est arrivée très tardivement dans le milieu du cinéma, parce qu'elle a commencé par il me semble qu'elle était journaliste, elle a fait ensuite des documentaires, elle a fait des clips, si je dis pas de bêtises. Et donc là, elle se retrouve
elle a intégré le cinéma vers la trentaine.
Oui, voilà. Et elle se retrouve à la tête de ce projet énorme, à 100 millions de dollars. C'est
dingue.
C'est incroyable.
C'est dingue.
Et les bandes
annonces. Il faut payer Oprah si tu veux. Donc, ouais. Bon.
Et il y a 99 millions de dollars avant son salaire.
Et le coiffeur, surtout.
Bon sang. Et en fait, donc, je suis allé voir le film en essayant de me préserver de toutes les autres bandes annonces, toutes les featurettes, tous les making-of qui étaient sortis. Ouais. Mais il faut savoir qu'en allant voir le film, on savait déjà que les premières reviews US étaient relativement mauvaises.
Les retours étaient. Très mesuré, on va dire.
Ouais, alors voilà, c'est quand même une personnalité très en vogue et assez puissante, Ava DuVernay à Hollywood, malgré ses 4 films. Elle est dans le giron de Disney, c'est une des très bonnes amies d'Oprah Winfrey, qui est la femme la plus puissante d'Amérique. Donc du coup, la presse américaine garde ses coups, on va dire. Ils restent très très diplomates, mais ils expriment quand même leur mécontentement. On savait que le film, c'était pas un grand succès. Et alors, il y a une espèce d'opération, pardon pour les anglicismes, j'aime pas trop ça en général, mais de damage control, comme ils disent aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant même que le film commence, et c'est-à-dire que c'est ça qui rend l'expérience encore plus détestable. C'est qu'on nous fait on nous dit, alors voilà, on va projeter le film, le jour de la journée de la femme, parce que rendez-vous bien compte, d'accord, le film peut-être, mais en fait, c'est exceptionnel, parce que c'est une femme.
C'est révolutionnaire quelque part.
C'est révolutionnaire, cette jeune actrice, parce que évidemment, on est aussi dans une progression sociale.
Et souviens-toi, il mettait vachement en avant le fait que Ava DuVernay était donc la première réalisatrice afro-américaine à hériter d'un budget de 100 millions de dollars pour une super production.
Et en fait,
ils axaient vraiment là-dessus, quoi.
Et toute la présentation du film avec cette.
Alors, on s'en fout, non, mais c'est bien, mais. Enfin, c'est pas ça qui nous intéresse.
Mais on venait voir le film et on a eu cette conférence Skype qui n'en finissait plus pour nous expliquer à quel point c'était formidable, que c'était génial. En plus, Oprah Winfrey, là-bas, bon, c'est presque une figure religieuse. Hein, c'est un messie aux États-Unis pour une partie de l'Amérique en tout cas.
Genre
une
espèce
de foule en délire. Et on nous expliquait que le film était génial parce que si, parce que ça. On nous donnait plein d'anecdotes à repérer dans le film, comme pour désamorcer l'avis négatif qu'on pouvait avoir au premier abord.
C'est ça.
Et ça, je trouve ça absolument ahurissant, quoi.
Ah, mais c'était d'un cynisme incroyable. Enfin, plus qu'un cynisme, je trouve ça extrêmement opportuniste d'organiser une projection le jour de international des droits de la femme. Déjà, c'est pas rendre service aux femmes. C'est assez, assez vache. Mais bon, non, je voulais dire un truc méchant, mais j'ai oublié. Mais j'ai d'autres trucs très méchants à dire sur le
film. D'accord, bah vas-y, je t'en prie.
Retiens pas tes coups.
C'est vrai, je peux y aller.
Non.
Ouais, vas-y. D'accord, bah écoute, alors qu'est-ce que dire sur le film? Déjà que je pense que depuis la projection, je me suis chopé une cataracte. Parce que le film est quand même visuellement très, 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 très
laid. Oh là là, bon sang! Mais la direction artistique est d'une laideur et d'une pauvreté. C'est hallucinant. Mais à 100 millions de dollars, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?
Bah, justement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, où est passé l'argent. Mais
Oprah,
tout à fait.
Bon, faut pas tout lui coller sur le dos, la pauvre.
Qui nous a été quand même vendu comme un mix entre Michel Drucker et Arthur Puissance.
Ah oui, ils nous ont dit ça.
Par la représentante de Disney.
Sympa.
C'est une expérience à ne pas vivre. Justement.
On se rend bien compte justement que Ava DuVernay, sans déconner, c'est une vaste arnaque. Elle a pas du tout les épaules, parce que c'est un film qui n'est pas incarné, qui ne raconte rien. Les personnages sont hyper mal écrits. Il y a un message hyper lourd sur le bien-être. Ça ressemble à un tract sur le bien vivre ensemble, sur l'amour. Sur.
C'est ce que j'allais dire. On avait l'impression que c'était l'adaptation d'un livre de self improvement, comme les trucs américains.
Mais qu'est-ce que c'est lourd.
Mais en fait, ce qu'on peut ne pas reprocher au film, c'est ses bonnes intentions. C'est-à-dire, c'est un film qui a le cœur sur la main. C'est un film qui, beaucoup trop. Hein. Mais c'est un film qui n'est que dans le crois en toi-même, réalise tes rêves, n'écoute pas ce qu'on te dit, tu es la meilleure, tu es le meilleur, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. À tel point que d'ailleurs, c'est un film qui n'a aucun antagonisme réel. C'est-à-dire que le mal est incarné par une espèce de forme noirâtre qui vole dans l'espace. Une voix off. Alors, à mon avis, c'est Keith David, qui est un acteur que j'adore, qui fait la voix du mal, je pense.
Peut-être.
Mais le mal, d'ailleurs, s'appelle genre It. Le mal n'a pas de nom, c'est le mal. Voilà. Le mal est facilement vaincu, d'ailleurs. Désolé pour le spoil, hein, mais bon, c'est un film Disney. Et en fait, c'est un film où tout va bien, où tout le monde est gentil, tout le monde est bénéfique, il n'y a pas d'aspérité. C'est un film d'une banalité. C'est un film en surface. Et d'ailleurs, c'est un peu cette espèce de nouvel élan qui est représenté notamment, je trouve, hein, moi, par Ava DuVernay et tous ces nouveaux cinéastes qui arrivent aujourd'hui. C'est du cinéma sans aspérité.
Sans ambition.
Désolé pour le terme, parce que c'est un long débat, mais c'est un film politiquement correct. C'est un film qui ne...
Ah, bah alors là, on est en plein dedans.
C'est un film qui ne dit rien et qui n'a rien envie de dire, si ce n'est un espèce de message de bonne humeur.
Tu sais pas ce qu'il a envie de dire, à part le...
Tu sens quand même ce qu'il a envie de dire, tu vois le message, mais c'est tellement au chausse-pied, à la truelle, que ça passe à côté. On voit le message, mais, oui, c'est hyper maladroit et c'est pas fin pour deux sous, quoi.
Ah non, mais c'est de la bonne grosse guimauve, bien sucrée, bien mielleuse. Ouais.
Alors en termes de guimauve, c'est pas que dans le récit, hein, c'est même dans le rendu visuel.
C'est l'indigestion, à la fois au niveau visuel, parce que moi, quand j'ai vu le film, j'ai quand même eu l'impression de voir une espèce de... de version suédée du magicien d'Oz mis par Teletubbies en bourré. Mais
Teletubbies en bourré. Non mais le truc c'est que faut dire aussi ce qu'il y a, c'est-à-dire que ces personnages voyagent à travers les les planètes. Hein, ils voyagent dans l'espace. Ils vont de planète en planète. Et visuellement, c'est d'une laideur, d'une pauvreté. Et moi, ce qui m'a particulièrement choqué, parce qu'à un moment, bon, rentrons un peu dans les termes techniques, c'est que le film, bon voilà, Ava DuVernay, j'avais pas tellement aimé Selma. C'est difficile pour moi de juger. Là, on fait les méchants, c'est facile pour nous. Hein. A posteriori, j'ai pas vu ses autres films. Mais j'ai trouvé que Selma et Wrinkle in Time, c'était pareil. C'est-à-dire qu'en termes de mise en scène plus basique, tu meurs, quoi. Moi, enfin, je montrerai pas ça à des étudiants en école de cinéma.
Ah non, ça c'est sûr.
Et Wrinkle in Time, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les personnages ne sont jamais ensemble. C'est un film qui est en chacun à son plan. Tout le monde est absolument détaché et de ses partenaires de jeu et du décor. Les personnages n'existent pas dans l'univers qu'ils sont censés habiter et n'existent pas les uns par rapport aux autres. Et il y a notamment une espèce d'histoire d'amour naissante entre un jeune garçon qui les accompagne, qui s'appelle Calvin, qui passe là par hasard et qui dit viens, on va dans un autre monde. Il dit ok. Et puis d'un coup il se retrouve entraîné là-dedans. On comprend qu'il a une attirance pour cette jeune Meg, et en fait cette attirance n'existe pas, elle est simplement symbolisée à l'image par lui. On lui a dit vas-y, regarde-la avec des yeux d'amoureux pendant 10 plombes, et en fait
fais ton Robert Pattinson.
Et alors ce comédien d'ailleurs, c'était le jeune qui jouait Peter Pan, hein,
mais son personnage ne sert absolument à rien.
Non, il pourrait,
parce qu'à un moment donné t'as un des personnages, je crois que c'est Reese Witherspoon, qui lui dit toi ton sens de la diplomatie va nous être utile, mais à aucun moment le mec ne fait preuve de diplomatie. C'est à peine s'il l'ouvre pendant tout le film. Enfin, on l'entend pas, il est juste là, il fait des yeux doux 5 minutes juste là pour
lui donner. Tu évoquais Reese Witherspoon, est-ce qu'on peut spoiler ou pas
l'instant végétarien,
l'instant salade,
oh la vache, l'instant fenouil
de Reese Witherspoon qui se transforme en une espèce de feuille de
moi, c'est
de
le plus beau
de...
c'est le plus beau fenouil en image de synthèse que j'ai vu depuis des années.
Juste pour cette scène, à la limite, allez-y.
Non, mais il se trouve que Reese Witherspoon, elle fait une espèce de Wonder Woman à deux balles, elle tourne sur elle-même et elle se transforme en créature faite de feuilles.
Feuilles de
salade. La DA est dégueulasse, mais bon, après, si tu veux, la DA.
Avec les gamins qui sont dessus, ouais, qui découvrent donc cet univers dans lequel ils viennent d'arriver et qui vont se retrouver à caresser le visage.
Oprah Winfrey.
Oprah Winfrey. En énorme sur l'écran.
Racontons ça surtout. Oprah Winfrey
sur le visage.
N'a pas fait le film en même temps que les autres. Hein. En fait, elle partage peut-être deux scènes avec le reste du cast, mais la majorité du temps, elle est à part. Elle a été filmée sur un écran vert, elle est géante, elle est quelque part dans le paysage et elle a des espèces de costumes. Ils ont tous des costumes absolument dégueulasses. Je suis désolé pour le ou la directrice artistique pour les costumes, mais franchement, ça le fait pas. Et elle a du maquillage pourri avec des paillettes, des perruques horribles.
Très Ursula Queen of the Night.
Ouais, grave, elle ressemble à Ursula de la petite sirène.
Ouais, non, mais vraiment, moi, je te l'ai dit, c'est ce qui m'a frappé.
Ouais, c'est vrai.
Elle est complètement immense, elle est immense comme ça, avec cette espèce de grosse robe et tout machin.
Mais alors, la question,
elle occupe tout l'espace de l'écran.
On regarde ça avec notre regard. Bon, là, on est un petit peu bâtard, bon. Mais comment le très jeune public peut appréhender le film? Parce que si tu veux, on est dans cette filiation de ce film de jeunes enfants qui vont dans cet univers fantastique. Je veux dire, malgré tous les détails que je peux, malgré tous les défauts que je peux reprocher au premier Harry Potter, il y a un fossé, c'est abyssal, quoi.
Premier Harry Potter, tu peux lui faire beaucoup de reproches, mais t'as au moins des personnages auxquels tu t'attaches un minimum, ce qui est absolument pas le cas de Winkle.
Mais elle est pas si mal, la jeune comédienne, mais elle a rien à défendre.
Bon, mis à part le fait que je trouve qu'elle ressemble à Jordan Peele, mais avec.
c'est tellement gratuit.
Mais en mode Tom Cruise. Non, mais moi j'ai décidé d'être gratuit.
Non, elle est bien, les Mimi, elle joue bien.
Elle a pas une trajectoire forte.
Mais elle a un personnage de merde.
Son personnage est.
J'ai dit le mot.
Son petit frère avec son prénom composé. Tu sais dès le début que de toute façon ses parents l'ont détesté pour l'appeler Charles.
Mais ses parents, parlons-en, parce qu'en fait.
Qui n'existe pas.
La mère qui est jouée par cette actrice, alors je me suis désolé, je me souviens jamais de son nom, Gougou, je ne sais pas quoi, c'est une actrice britannique que j'ai vue dans d'autres films, qui est tout à fait bien.
Elle était dans Black Mirror, je crois.
Et elle n'est pas dans le nouveau Cloverfield aussi ?
Oui, si, également. Ouais.
Et le truc, c'est qu'on nous dit dans l'interview, Gougou, je ne sais pas quoi, encore une fois, désolé, c'est une femme, et ce n'est pas juste un personnage féminin, c'est une scientifique brillante, elle est exceptionnelle, c'est la plus intelligente, limite dans le couple. Et en fait, son personnage ne sert absolument à rien. Et c'est un film qui se base que sur du vent, avec des personnages qui n'existent pas. Et il y a ce personnage du jeune frère Charles Wallace, qui est en fait le geek de
Charles Wallace.
Le geek de le geek, pardon si vous vous appelez Charles Wallace, qui est un peu le geek de service, qui fait des blagues blagues de nerd.
Vous avez du style quand même.
Et il y a un moment, c'est un film qui a été écrit comme nous on fait en ce moment, autour d'une pinte de bière dans un bar. Et ils se sont dit, c'est une super idée.
Tu sais par qui le film est écrit?
Vas-y.
Il est écrit par, j'ai oublié son nom et son prénom, je suis désolé, mais par la réalisatrice de La Reine des Neiges.
La réalisatrice de La Reine des Neiges. Et alors voilà, ils l'ont annoncé en amont de la projection. Et alors à ce moment-là, je me suis enfoncé dans mon siège et je me suis dit que j'allais vivre une nouvelle expérience.
Et des mondes de Ralph également.
Ouais.
Bon, moi je voudrais juste, par rapport à ce type de film qui met en avant une certaine fantaisie originale quelque part. Déjà, le film me fait réhabiliter Oz de Sam Raimi.
Et ça
part.
Quand même.
Et j'ai juste envie de dire aux gens, foncez voir À la poursuite de demain, Tomorrowland de Brad Bird avec George Clooney, qui a été snobé, qui a fait même pas 900 000 entrées en France et qui malgré tout a été redécouvert le 1er janvier 2018. Il est arrivé, il a fait 4 millions de téléspectateurs sur M6. Il a été redécouvert, on m'en a reparlé après du coup. Tu vois.
Mais en fait, il y avait des très bons moments dans ce film. Hein. Et c'est ça surtout que j'aimerais rappeler, c'est que A Wrinkle in Time en soi, bon bah là, on a détesté, on a trouvé ça vain, nul, bête.
Oui, mais sur la thématique de la position.
Si tu veux, Ava DuVernay, voilà, ça fait que deux films que je vois d'elle. Chaque réalisateur, chaque réalisatrice a droit à des erreurs. Hein. On peut se planter, ça arrive même au meilleur. Mais le truc, c'est qu'on la présente un petit peu, elle et d'autres d'ailleurs, comme ces espèces de scénaristes, de cinéastes parfaits, que c'est absolument exceptionnel. On les met en avant, on leur donne des budgets énormes. Elles sont tellement puissantes d'ailleurs dans les médias que la presse elle-même, les gros magazines, n'osent pas tellement leur rentrer dedans,
non,
tu
non.
vois.
Il
y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Et Disney aujourd'hui est tout puissant, hein, c'est The Studio parmi les studios. Est-ce qu'on veut aller vers ça, ou est-ce qu'à un moment il faut se prémunir de cette espèce de nivellement par le bas et de se dire que bon sang, non, on peut faire autre chose, quoi.
Moi je sens la plantade, hein, sincèrement.
Bah, écoute, c'est terrible de dire ça, mais j'espère qu'il va se planter. Hein.
Moi je vais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas. Moi, il y a généralement les accidents industriels, et je mets une grosse guillemets en disant accidents industriels de Disney ces dernières années qui sont à la poursuite de demain, ou John Carter, ou Tron, sont les films pour lesquels moi j'ai eu une espèce de tendresse, parce que au moins visuellement ou narrativement, oui, il présentait des univers.
Il y avait de l'ambition.
Il y avait de l'ambition, ce qui n'était pas le cas de Wrinkle in Time. Donc on peut espérer que Disney se remette à prendre des risques de ce type.
On le souhaite.
Mais c'est pas gagné, je pense.
Ok, très bien.
Bah, je voulais simplement faire une petite recommandation et je m'arrête là, désolé, je parle trop, mais il y a un moment, si vous voulez avoir un film avec des personnages enfants qui se retrouvent attirés dans des dimensions parallèles et sur d'autres planètes et qui traversent le temps et qui se découvrent eux-mêmes et qui redécouvrent leur potentiel, je vous conseille Time Bandits de Terry Gilliam, qui est un film de 1981. C'est un chef-d'œuvre d'innovation, c'est une mise en scène formidable, c'est un peu dans la lignée du Baron Munchausen pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est grosso modo le même pitch, sauf que c'est bien plus intelligent et intéressant, donc foncez le voir.
Ok, un raccourci dans le temps, Ava DuVernay, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, vous avez compris, on ne vous le conseille absolument pas. Mais bon, voilà, faites-vous votre propre opinion et dites-nous dans tous les commentaires, on est très impatients d'avoir votre...
Vous avez le droit de nous insulter si jamais ça vous a plu.
Fan Footage épisode 4, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur Séance Radio, iTunes, SoundCloud et tous les autres agrégateurs pour nous suivre, pour commenter. Hashtag Fan Footage également. Ilan, merci.
Oui, merci à toi.
À très vite sur cinevibe.fr.
Tout à fait.
Pierre.
De rien, je n'avais fait que mon devoir.
Mais oui, sur Fan Footage évidemment. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel endroit pour parler d'un nouveau film. Allez, salut tout le monde.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.